Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estival du Local. L'AJT du Local que vous retrouvez toute l'année de septembre à juin passe en mode été avec un format un peu plus court que d'habitude, moins en résonance avec l'actualité. On prend un peu plus le temps en juillet-août, mais toujours sur celles et ceux qui font bouger le département. Tous les lundis par exemple, on retrouvera la chronique historique de Christophe qui nous propose une balade dans le département et dans les siècles. Aujourd'hui, cap sur la rivière la Mayenne et chaque semaine, un feuilleton décliné en 5 épisodes à retrouver du lundi au vendredi. Et on commence par le château de Lignières à Balais, lieu emblématique du territoire, qui propose une nouvelle scénographie, des spectacles tout au long de l'été, le tout en poursuivant les travaux de restauration du lieu. Alors je vous propose pour commencer une promenade le long du chemin de halage et c'est 37 écluses. Enfin ça c'est aujourd'hui, puisqu'il a fallu de nombreux aménagements pour que la rivière soit navigable. Bonjour Christophe.
Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène au bord de la rivière Mayenne en 1536. À cette époque, pas de quai à l'aval, ni dans les autres villes riveraines. La rivière n'est pas canalisée, elle est encore très sauvage. Le seul véritable aménagement au Moyen-Âge, c'est la construction de nombreux moulins. Ces derniers sont tous dotés d'une chaussée, une sorte de digue qui fait barrage à la perpendiculaire de la rivière pour créer une retenue d'eau nécessaire pour actionner la roue du moulin. Par conséquent, la navigation fluviale est très limitée, car rapidement stoppée. On canote sur de petites barques, sur de très courtes distances. Mais tout change au début du XVIe siècle. À l'échelle mondiale, les Européens se connectent aux Amériques et c'est tout un commerce transatlantique qui se développe au départ des ports espagnols, portugais, mais aussi français, parmi lesquels Nantes. C'est un moyen pour les marchands et négociants de la région de s'enrichir en exportant les produits locaux, tout particulièrement les toiles et les draps de chanvre et de lin. La Loire devient une artère de communication essentielle du royaume de France, de Nantes jusqu'à Orléans et de là jusqu'à la région parisienne. Il est donc indispensable d'être connecté à cet axe pour participer à la mondialisation naissante. Or, pour les marchands lavallois, les chaussées des moulins de la Mayenne sont autant de barrages infranchissables, les coupant de l'accès à la Loire et à l'Atlantique. C'est de cela dont ils se plaignent au roi de France, François Ier, au début des années 1530. C'est pourquoi le souverain, le 6 février 1536, autorise l'aménagement de la Mayenne entre Château-Gontier et Laval, afin de rendre la rivière totalement navigable entre Laval et la confluence avec la Sarthe, puis la Loire, dans les environs d'Angers. L'aménagement va consister à percer toutes les chaussées des moulins et à installer des portes marinières. Alors, il ne faut pas imaginer des portes avec deux battants qui s'ouvrent et qui se ferment. Pas du tout. Chaque porte ressemble plutôt à un gigantesque puzzle en bois que l'on doit démonter pièce par pièce avant le passage d'un bateau, puis remonter pièce par pièce une fois le bateau passé afin de reconstituer l'unité de la chaussée. Démontage et remontage durent au total 4 heures. Et pendant ce temps-là, l'activité du moulin voisin est totalement suspendue faute de courant suffisant. Malgré les contraintes, ces portes marinières sont un progrès considérable pour les marchands lavallois car elles évitent les ruptures de charge et permettent une circulation aisée et rapide de leurs marchandises vers la Loire et le port de Nantes. Cet aménagement est aussi, au niveau du pouvoir politique, le signe d'un changement d'époque. Car les marchands de Laval ne se sont pas adressés au comte de Laval ni au comte d'Anjou, comme ils pouvaient le faire au Moyen-Âge, mais au roi de France. La décision d'aménager la Mayenne est revenue au pouvoir royal, un pouvoir qui se renforce, ce qui est l'une des caractéristiques de l'époque moderne entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Les portes marinières restent en fonction jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elles sont progressivement remplacées par les écluses que nous connaissons aujourd'hui, système plus pratique et plus rapide. Les dernières portes marinières en fonction est celle du moulin d'Étronier près de l'Huisserie dans les années 1860. À bientôt pour une prochaine balade historique en Mayenne.
Merci beaucoup Christophe. On vous retrouve lundi prochain pour tout savoir de l'histoire de Château-Gontier. Mais oui, qui est ce Gontier d'ailleurs? Eh bien réponse la semaine prochaine. C'est désormais l'heure de notre série de la semaine consacrée au château de Lignières à Balais, commune de Val-du-Maine. Il y a 7 ans, Julien Ostini et sa compagne Véronique ont acheté le château après un véritable coup de cœur pour le lieu qui tombait en ruine. Depuis, un opéra participatif s'installe chaque été sur place. Le lieu accueille de nombreux visiteurs au printemps et l'été, et les travaux de restauration du bâtiment sont déjà bien entamés. Première visite avec Julien Ostini.
Lignières, c'est avant tout quand on arrive quand même en château, un élément du patrimoine qui est maintenant ISMH, donc inscrit au monument, sur la liste des monuments historiques. Donc on a dans le fond de la deuxième cour, derrière les douves et le rempart du 11e et 12e siècle, le château qui lui est en pleine restauration, en plein sauvetage. On est lancé dans une grande campagne de travaux qui, on l'espère, finira au printemps de l'année prochaine, où on reprend entièrement toutes les parties hautes et le sauvetage de la chapelle du XIe siècle. Pour ça, on a évidemment la chance d'être accompagné par la Fondation du patrimoine, la Mission Berne, la DRAC, la Région, le club de mécènes de la Fondation de Mayenne. Donc c'est un énorme chantier qui est engagé. Et nous, on a créé sur le tour du château, sur les anciens remparts justement médiévaux, parce que tout ça était repris par les végétations. Donc nous, on a recréé un sentier à l'intérieur, et donc on fait une balade ombragée, assez agréable et assez surprenante, dans laquelle on voyage à travers l'histoire du lieu, parce qu'en tournant autour du château, on peut voir apparaître plein d'époques différentes et plein de traces de son histoire, parce que si ce qu'on voit en premier quand on arrive, c'est le XVIIe siècle, en fait, le château remonte jusqu'au Xe siècle, en tout cas. Et donc on a pas mal de choses à raconter, on a pas mal d'anecdotes. Les gens qui vivaient ici ont souvent été un peu fêlés, donc je sais pas si c'est dans l'air, et du coup ils ont laissé des anecdotes un peu remarquables, donc ça permet de faire une balade, et puis ça permet de passer à travers le verger qu'on vient de replanter, le jardin potager qu'on est en train de créer, et puis aussi présenter tout le projet participatif, parce qu'ici on est un tiers lieu, donc on est aussi avant tout un endroit où tout le monde peut venir facilement, juste pour boire un café, s'asseoir en terrasse, se coucher dans l'herbe, ou apporter des idées et dire « moi j'ai des envies, j'ai des projets, j'aimerais participer, comment on peut faire ?» Les projets qui sont nés de propositions de dynamique, c'est en tout cas le potager. On ne serait pas parti si grand et si fort cette année s'il n'y avait pas eu une demande d'un certain nombre de gens qui ont dit « mais moi, cette partie-là, ça m'intéresserait vraiment qu'on la fasse revivre ». Donc cette année, on a planté 1500 arbres, 53 arbres fruitiers, et puis plus de 1200 plants pour faire les bordures du jardin ou les premiers aménagements paysagers. Donc voilà, il y a une dynamique, les gens sont là, donc on enclenche une dynamique, et puis ensemble, on fait les recherches sur quel genre de jardin on voudrait, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on va y planter, et c'est des super échanges. Eh ben, les travaux, si on regarde le château, là, on peut voir que les deux pavillons à l'extrémité du corps du logis ont été restaurés. On est en train de finir. Il devrait être fini pour mi-juillet, fin juillet, le plus gros des pavillons qui est sur la face nord. Et puis ensuite, à la rentrée, à partir de septembre, on va attaquer le corps du logis. Donc voilà, il reste encore pas mal de choses, mais on commence maintenant à pouvoir avoir en vrai avant-après dans le même coup d'œil, parce qu'on voit les lucarnes non sauvées, non remaniées, la toiture qui baille et les ardoises qui tombent à côté d'une partie qui est, elle, complètement refaite. C'était une nécessité absolue. Le château tombait en ruine quand nous on l'a acheté. On l'a entièrement étayé la nuit même de l'achat parce que ça cassait. Et on se rend compte que ça continue à casser malgré les parapluies en tôle, malgré les protections, malgré tout ce qu'on avait fait. Donc si on ne l'avait pas acheté, il n'y aurait plus rien à voir à Lignières, là c'est sûr. Et puis là on se bat un peu contre la montre pour que ça tienne le temps de la fin des travaux. Donc c'est effectivement, au-delà du soulagement, je pense qu'il y aura la sensation d'avoir, de se dire que tous ensemble, parce que ça fait quand même 6 ans aussi qu'il y a les projets, l'opéra participatif et l'ensemble des projets qu'on mène ici, avec toutes les personnes qui viennent, ce lieu, c'est pas chez nous. Soit on a acheté un château, mais on n'est pas propriétaire d'un château, on est transmetteur d'un château, on est protecteur d'un monument historique, mais nous, on ne se considère pas comme chez nous, on est chez tout le monde et... tout le monde vient participer et s'empare du projet. Donc se dire que ça va être pérennisé et ça va être sauvé, ce jour-là, on pourra ouvrir le champagne.
Pas encore l'heure du champagne, toujours avec modération d'ailleurs, mais les travaux avancent bien. Demain, on testera ensemble le nouvel espace muséal interactif qui s'appelle Épopéa. Il a ouvert ses portes depuis 3 mois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour l'estival du local à 7h30 pour les plus matinaux et à 12h15 pour les autres. Très belle journée ensoleillée.